en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
À l'occasion du 150e anniversaire de la publication de l'Origine des espèces en 2009, le Muséum national d'histoire naturelle accueillit un cycle de conférences autour de Charles Darwin. Dans cette retransmission que Canal Academy vous propose, vous pourrez entendre la conférence de Pascal Tassy, paléontologiste et professeur au Muséum. Il propose ici une relecture de l'Origine des espèces publiée en 1859 par Charles Darwin. Sa conférence, intitulée « Confidences d'Albert Gaudry sur Charles Darwin », met en confrontation deux élus de l'Académie des sciences, l'un paléontologiste, l'autre naturaliste. Albert Gaudry, paléontologue et géologue français, est entré à l'Académie des sciences en 1882. Fondateur de la Galerie de la paléontologie au Muséum en 1898, il restera l'un des rares paléontologues à défendre des idées évolutionnistes. Lorsqu'il lira l'œuvre de Charles Darwin, « L'origine des espèces », publiée en français en 1863, il ne pourra s'empêcher de glisser quelques commentaires dans la marge de l'ouvrage présent entre ses mains. Cet exemplaire a par bonheur été conservé au laboratoire de paléontologie du Muséum. À la lumière des annotations et des remarques d'Albert Gaudry, Pascal Tassy vous propose une relecture de l'œuvre fondatrice de la théorie de l'évolution.
Bienvenue à toutes et à tous. Ce que je vous propose ce soir, c'est une lecture studieuse et attentive, non seulement de Charles Darwin, mais également d'Albert Gaudry. Alors, Albert Gaudry, c'est une institution à lui seul, puisqu'il représente pratiquement la carrière idéale d'un paléontologue au XIXe siècle. Et pourtant, c'est une personnalité très méconnue. Si vous venez au Muséum en paléontologie, et que vous décidez de regarder de près l'entrée de la galerie de paléontologie, vous pouvez voir que le point de vue général de la galerie se fait à côté d'un buste, c'est le buste d'Albert Gaudry. C'est lui qui a conçu cette galerie de paléontologie qui a été inaugurée en 1898. Cet homme-là, en fait, on peut le qualifier de paléontologue complet. Il s'est intéressé donc à la paléontologie, mais il s'est intéressé à l'évolution. Il a mené des fouilles sur le terrain dans le but d'illustrer l'évolution. Il a commenté l'œuvre de Darwin. Au milieu du 19e siècle, en tout cas dans les années 1860-1870, il était pratiquement le seul à défendre des idées évolutionnistes et à parler volontiers de Charles Darwin. Et puis, à partir du résultat de ses travaux, donc vous voyez, c'est un homme qui a fait du terrain, bon, notamment à Picarmie. Alors Picarmie, c'est dans le sud-est de la Grèce, un gisement du tertiaire récent qui a quelque chose comme 7 millions d'années. Eh bien, à Picarmie, Gaudry rencontre véritablement un monde fossile et en même temps, il concrétise l'idée qu'il se fait de son métier. En plus, il est helléniste, ce qui fait que trouver des mammifères très anciens en Grèce est pour lui quelque chose d'assez exceptionnel. On peut dire qu'Albert Gaudry ne se contente pas de cela. Il retourne sur le terrain, mais cette fois dans le sud de la France, dans le Luberon. Et il publie donc plusieurs monographies sur ses travaux. Et vous voyez, il termine président de l'Académie des sciences, une très belle carrière, mais qui ne s'est pas faite sans mal 30 ans auparavant. On en dira un mot. Alors voici un extrait de quelques ouvrages marquants, notamment « Les animaux fossiles et la géologie de l'Attique », un ouvrage qui est publié en fascicule à partir de 1862 et qui est un véritable événement international dans la paléontologie et dans l'évolutionnisme de cette époque. Le dernier ouvrage sélectionné, celui de 1896, « L'essai de paléontologie philosophique », est une réflexion d'un paléontologue spiritualiste, car Gaudry est croyant et pendant toute sa carrière, toute sa vie, il s'est posé des questions sur non pas les relations entre la science et la foi, mais sur la compatibilité entre ses convictions religieuses et son évolutionnisme. Donc à la fin de sa vie, il écrit cet ouvrage qui est une réflexion sur le sens du progrès qu'il constate dans la succession des êtres vivants dans le temps géologique et un progrès qu'il interprète comme étant la volonté de Dieu. Donc c'est aussi intéressant de voir comment au XIXe siècle, un paléontologue spiritualiste lit Darwin, interprète Darwin et pratique les préceptes de Darwin dans sa discipline. Alors je vous montre quand même quelques images tirées des planches de cette fameuse monographie pour vous montrer que déjà ces planches ont une qualité extraordinaire du point de vue esthétique. Là, il publie un mésopithèque, c'est-à-dire un babouin fossile. Vous avez ici la reconstitution de l'animal, le fameux cheval à trois doigts, l'hyparion. Vous pouvez d'ailleurs voir ce squelette en trois dimensions dans la galerie de paléontologie du muséum. Et puis, dans le fascicule de 1866, qui est l'un des chapitres de cette grande monographie, les considérations générales sur les fossiles de Picarmie, Gaudry publie les premiers arbres évolutifs de l'histoire qui relient les fossiles aux espèces actuelles. C'est un événement considérable. Ici, vous avez un schéma concernant les hyparions précisément, et on en verra d'autres un peu plus loin. Donc 1866, c'est 7 ans après la publication de l'Origine des espèces en Angleterre. Alors Gaudry n'est pas devenu évolutionniste en lisant Darwin. Gaudry a commencé sa carrière comme aide-naturaliste dans la chaire de paléontologie qui était tenue par Alcide d'Orbigny. Bon, il se trouve qu'il est le beau-frère d'Alcide d'Orbigny, et Alcide d'Orbigny est un paléontologue cuvierien ou cuviériste, comme vous voulez, qui ne croit pas du tout à la transformation des espèces. Évidemment, c'est un compagnonnage qui pose problème à Gaudry, qui lui est fortement impressionné par les travaux de Lamarck, d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire et de son fils Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, trois auteurs qui sont fondamentalement évolutionnistes, puisque Lamarck est le premier à avoir articulé une théorie de l'évolution en 1800. La publication en français de l'Origine des espèces remonte à 1863, et c'est cet ouvrage que lit Albert Gaudry. Alors cet ouvrage, il faut en dire deux mots. Il est traduit par Clémence Royer et c'est une trahison extraordinaire du texte de Darwin. Alors, ce n'est pas une trahison permanente, mais il y a quelques points absolument essentiels où la traductrice se donne des libertés inconcevables avec le texte original, notamment le sous-titre, hein, puisque le sous-titre de l'Origine des espèces en anglais, c'est la survivance du plus apte. C'est traduit par les lois du progrès. Et effectivement, Clémence Royer ajoute une longue préface à l'ouvrage de Darwin qui se termine par cette phrase absolument ahurissante « Je suis comme M. Darwin, je crois au progrès ». Alors, le progressisme est une idée qui est évidemment très présente dans la littérature évolutionniste et c'est intéressant de faire de l'exégèse sur la manière dont ce concept est traité par les auteurs du XIXe siècle. On le trouve dans l'Origine des espèces de Darwin. Darwin ne nie pas du tout qu'il y ait un progrès. Ce progrès est une complexification, mais tout de même, c'est une amélioration. Le terme y est. On ne peut pas dire que Darwin n'est pas progressiste. C'est indiscutable, même si à une époque, la lecture moderne de Darwin tirait Darwin vers une vision absolument contemporaine, comme si Darwin avait prévu les interprétations et les modes des biologistes du XXe, XXIe siècle. Non, il y a non seulement de la progression, mais du progressisme dans l'Origine des espèces, mais ce n'est pas omniprésent du tout. Or, quand on lit la page de titre de l'Origine des espèces, que vous voyez ici dans la version anglaise originale de 1859, puis le livre traduit en français, Les lois du progrès chez les êtres organisés, on a vraiment l'impression de lire un texte sur, justement, les lois du progrès. Alors, cet ouvrage, Gaudry l'a eu entre les mains. Il est conservé à la bibliothèque du laboratoire de paléontologie, de l'ex-laboratoire, puisqu'il n'y a plus de laboratoire au sens strict au muséum. Et nous avons la chance que Gaudry ait annoté cet ouvrage. Donc, on peut suivre ses remarques, ses considérations au fil de sa lecture, les paragraphes qu'il a soulignés, qu'il a cochés en marge. Donc, c'est extrêmement intéressant, mais malheureusement, cet ouvrage a été relié et la reliure a entamé une bonne partie des marges, ce qui prouve que le relieur, en tout cas, n'exerçait pas un culte de la personne vis-à-vis d'Albert Gaudry, et donc pas mal de mots sont biffés. Alors, quelquefois, on arrive à comprendre le contexte, reconstituer les mots, vous en verrez quelques exemples, mais pas toujours. Et même des textes abondamment qui se succèdent sur plusieurs lignes, eh bien, on a du mal à voir ce que Gaudry a bien pu écrire. C'est véritablement frustrant. C'est-à-dire, c'est très intéressant dans bien des cas, mais très souvent, on est frustré. On se dit, comment est-ce qu'on a pu découper un ouvrage pareil ? D'autant que d'autres livres qui appartenaient à la bibliothèque Albert Gaudry, ont été également annotés, notamment ceux qui touchent à l'évolution ou aux problématiques associées à l'idée d'évolution. là, on a des grandes marges non biffées, et ce qui fait qu'on peut suivre la pensée de Gaudry. Donc, je vous invite à lire quelques pages de l'Origine des espèces en compagnie d'Albert Gaudry. Donc, avant de faire un petit peu de commentaires de points précis, il faut savoir que, je le répète, en 1863, lorsque Gaudry lit l'ouvrage de Darwin, il est déjà imprégné de l'évolutionnisme de Lamarck. On sait par ailleurs qu'il n'est pas lamarckien. Et cela ressortira dans quelques-uns de ses commentaires dans le livre de Darwin, commentaires écrits en marge. Mais pour que l'on comprenne bien son point de vue, je vais vous lire une phrase qu'il a écrite dans la Nécrologie d'Alcide d'Orbigny, son prédécesseur, l'homme pour qui la chaire de paléontologie a été créée au muséum, et donc l'homme qui a continué l'œuvre de Cuvier en niant la transformation des espèces. Donc, dans cette nécrologie d'Alcide d'Orbigny, Gaudry écrit « On a pensé que les espèces se sont modifiées pendant le cours des âges, que les êtres inférieurs se sont perfectionnés et transformés peu à peu en animaux d'une organisation très avancée. Auprès de quelques esprits, cette théorie des transformations a passé pour une doctrine matérialiste. Ce reproche ne nous semble pas fondé. » Donc, cette nécrologie et ce texte est publié en février 1859, avant la publication d'Angleterre de l'Origine des espèces qui sort à l'automne. Donc, on voit que Gaudry fait référence aux auteurs qui pensent que les espèces se sont modifiées, essentiellement Lamarck et Geoffroy Saint-Hilaire et son fils. Et il précise bien que, pour la plupart des contemporains, ces idées-là sont matérialistes et Gaudry, spiritualiste, dit que ce n'est pas le cas. 1859, c'est aussi l'année où Gaudry défend Boucher de Perthes. Boucher de Perthes, l'inventeur de la préhistoire, pourrait-on dire rapidement, qui est en butte aux tracasseries des chercheurs académiques. Et Gaudry va dans le nord de la France fouiller lui-même pour bien vérifier que les outils taillés que trouve Boucher de Perthes sont effectivement associés aux restes d'animaux fossiles afin de montrer l'antiquité de l'homme. Et Gaudry est l'un des rares et en tout cas véhément supporters de Boucher de Perthes. Donc vous voyez, Gaudry est prêt à recevoir un message évolutionniste. C'est ce qu'il dira un peu plus tard. Nous sommes à côté de Gaudry en train de lire le livre de Darwin et on va feuilleter quelques pages dans l'ordre pour essayer de saisir la manière dont Gaudry a reçu ce message. C'est à la fois facile et difficile parce que la plupart du temps, Gaudry coche des paragraphes. Il souligne qu'une seule fois une phrase. Souvent, il coche un paragraphe. On sait par ailleurs, en fonction de ses publications, qu'il n'est pas d'accord avec ce paragraphe. Ou bien il coche un paragraphe parce qu'il est important, il est d'accord. Donc il faut vraiment faire la part des choses. Donc ce n'est pas simplement en feuilletant l'ouvrage qu'on peut être sûr que Gaudry est ravi de lire telle page ou plus ennuyé par une autre. Quand il n'hésite pas à écrire quelques mots, voir un texte assez long entier sur les marges, là, évidemment, c'est beaucoup plus clair si la relire a respecté la plupart des pages. Alors, l'ouvrage de Darwin commence par un chapitre consacré aux variations des espèces à l'état domestique et Gaudry a coché de très nombreux paragraphes. Alors, la page 56, il écrit en marge, c'est en effet très frappant. Qu'est-ce qui est frappant pour Gaudry? Et en fait, c'est que l'effet de la sélection artificielle a pour résultat que si l'on s'intéresse à la beauté des fleurs, on va créer un très grand nombre de fleurs différentes, et pour le reste, les feuilles, le port général de la plante ne va pas changer, et que si l'on s'intéresse à d'autres parties de l'organisme, eh bien ces autres parties vont changer. Donc Gaudry est frappé et retient cette information selon laquelle l'effet de la sélection n'entraîne pas inéluctablement des transformations sur les autres parties que l'on ne cherche pas à sélectionner. Autrement dit, on a ici quelque chose qui préfigure le comportement différent des caractères au cours de l'évolution. Dans les pages suivantes, Gaudry coche tous les paragraphes qui ont à voir avec les réflexions de Darwin sur les petites différences, les grandes différences, que des nouveautés peuvent être, du point de vue de la sélection artificielle, que des nouveautés peuvent être au départ insignifiantes. Ça, c'est un point aussi qui est à retenir. Pourquoi ? Parce que Gaudry, lorsqu'il va interpréter d'une manière évolutive les caractères anatomiques de ces fossiles, devra faire face à des traits qui ont une grande importance du point de vue de l'organisation et de la fonction de l'animal, d'autres dont il ne voit pas très bien quelle peut être l'importance ou, si l'on prend des termes darwiniens, la valeur adaptative. Le chapitre suivant concerne les variations, mais cette fois des espèces à l'état de nature. Et dans la page 64 qui est sélectionnée, que je n'ai pas sélectionnée, il écrit quand même cette phrase importante, « C'est bien vrai ». On dit là, Gaudry est vraiment satisfait de lire ce qu'écrit Darwin, et il s'agit d'un paragraphe concernant la difficulté de distinguer les variétés des espèces. D'une part, et sur les fluctuations des auteurs, qui, le même auteur, va interpréter telle espèce, et plus tard comme une variété, et inversement. Autrement dit, les variétés, mais je parle à l'état de nature, c'est-à-dire pas les variétés produites par la sélection artificielle, ce que les scientifiques admettent comme étant des variétés des espèces, pour Darwin, au fond, c'est quasiment la même chose, il n'y a pas de différence de nature, d'essence, pourrait-on dire. Et ça, c'est très important, car Gaudry lui-même va publier sur ce thème avec force exemple. Donc, page 80, dont vous voyez un extrait ici, Gaudry écrit un commentaire sur l'idée de multiplication des espèces. Alors, c'est vraiment pas bien lisible. C'est à propos du terme d'espèce arbitrairement appliqué à un ensemble d'individus. C'est toujours dans l'idée que, contrairement à ce que les classificateurs ont dit depuis toujours, l'espèce n'est pas la catégorie et l'entité si fondamentale que ça. Donc Gaudry est intéressé par cette distinction et qui est extrêmement moderne de la part de Gaudry, puisque ça préfigure la pensée populationnelle du XXe siècle. Un peu plus tard, Gaudry coche un paragraphe sur les espèces d'un même genre qui ne sont pas également distinctes les unes des autres. Ce qui intéresse Gaudry ici, c'est que finalement, dans un genre classifié, on va trouver des espèces qui se ressemblent, d'autres qui vont se ressembler de loin. Alors pourquoi cette dissemblance n'est pas propre à faire changer d'avis le systématicien pour retirer les espèces qui se ressemblent moins de ce genre? Eh bien, l'explication à la clé, c'est qu'il y a une filiation et pas forcément une filiation aussi marquée dans tous les caractères des différentes espèces. Le chapitre 3 s'appelle « La concurrence vitale » et ce chapitre entraîne l'adhésion de Gaudry. Et c'est important parce que ce chapitre est très biologique, pourrait-on dire, et absolument pas spiritualiste. En marge de la page 106, Gaudry écrit « Ceci et tout ce qui précède est très remarquable ». Et ce point est important car, face à ce chapitre de biologie matérialiste, Gaudry n'est absolument pas désemparé. Il coche deux pages pratiquement entièrement. Ce sont deux pages consacrées au lien entre les animaux et les plantes, la relation hôte et parasite, voire commensale. Il réfléchit sur la taille, le poids des bourdons en fonction des fleurs qui sont pollinisées par rapport aux abeilles. Il voit bien que des relations sont liées en fonction justement des besoins des uns et des autres. Il coche les paragraphes où Darwin insiste sur la multiplication normale des espèces est entravée par des conditions de vie et des problèmes qui sont toujours matériels. Vous savez que Darwin était très influencé par Malthus pour justement ce qu'il a aidé pour comment les espèces ne se reproduisent pas à l'infini, c'est que les conditions de vie représentent un obstacle permanent puisque l'adaptation est quelque chose qui fluctue en permanence. Enfin, les conditions d'environnement fluctue en permanence et donc l'adaptation c'est une course-poursuite permanente. Donc ce point est très important, Gaudry n'est absolument pas perturbé par le chapitre de la concurrence vitale. Alors le chapitre suivant, élection naturelle, Clémence Royer n'a pas traduit natural selection par sélection naturelle mais par élection naturelle, c'est-à-dire tirant l'expression vers le progrès, la notion de progrès. Les espèces sont élus parce qu'elles sont nettement plus avancées que les précédentes, celles qui ne sont pas élues. Alors c'est un abus de langage évidemment, D'ailleurs, Darwin récusera la traduction de Clémence Royer et l'Origine des espèces aura deux traducteurs, Moulinier d'abord et Barbier ensuite. Et ce chapitre contient ce schéma de Darwin, absolument crucial, fondamental, célèbre, célébré, qui montre à la fois l'origine des espèces, comment les variétés peuvent, à l'issue de multiplications successives au cours des générations et du temps, donner de nouvelles espèces. Et ce chapitre, quand même, là, pose quelques problèmes à Albert Goudry. Et pourtant, cette figure-là, il va l'intégrer de manière extrêmement précise. Alors, dès la 12e page d'un chapitre qui en compte 76, cette page-là, on trouve un commentaire assez étonnant en marge. Goudry écrit, donc, sur ce chapitre concernant la sélection naturelle, donc mécanisme matériel, matérialiste s'il en est, tout ce qui est dit sur l'élection naturelle prouve l'intervention directe du créateur. Du créateur est barré, et juste à côté, Goudry écrit de Dieu, pour que les choses soient encore plus claires, sans doute. Sans cette intervention, toutes ces pages, alors ces pages à sauter, n'ont pas de sens. La lecture de cet ouvrage prouve l'action continuelle de Dieu. L'adjectif continuel est assez étonnant, car on imagine Goudry soutenant le fait que Dieu est là en permanence à guider les espèces vers la perfection. Cette confidence en marge donc de cette page pourrait donner justement de l'eau au moulin de ceux qui disent que Goudry finalement est un évolutionniste qui n'a pas vraiment compris Darwin, ou qui l'a compris pour de mauvaises raisons, puisque on pourrait dire que cette phrase-là fait de Goudry un panthéiste. Mais justement ailleurs, dans d'autres publications, Goudry écrit, notamment dans son texte de paléontologie philosophique, « Si proche que Dieu soit de la nature, il ne se confond pas avec elle. » Mais toujours est-il qu'il a bien écrit ce texte. Donc là, je pense que tout au long de la lecture du chapitre concernant la sélection naturelle, Goudry flaire un réel danger vis-à-vis de ses convictions. C'est mon point de vue, j'en ai aucune preuve, évidemment, au-delà de ce texte. Dans la page 150, on a un texte que j'étais incapable de reconstituer, mais Goudry l'a commenté, et il s'agit en fait d'une réflexion sur l'effet de la taille différentielle de l'environnement et des populations qui vivent dans un environnement donné, et que les variétés, il ne dit pas population, Darwin, et que les variétés vont répondre différemment en fonction des changements du milieu, et que la sélection entre les variétés va se faire différemment selon que un continent va être séparé par un bras de mer. On dirait aujourd'hui les échanges de gènes ne sont plus les mêmes que si les deux îles se retrouvent de nouveau en connexion et leurs habitants de nouveau. Donc ce chapitre qui est une illustration de la concurrence vitale, titre du chapitre précédent, eh bien cette paragraphe-là, Goudry l'a coché et commenté. Le chapitre suivant concerne les lois de la variabilité. À nouveau, le problème des espèces et des variétés, mais cette fois vu selon l'importance des caractères donc des variations, Goudry écrit « Aucun naturaliste ne nie certaines transformations », ce qui n'est pas tout à fait juste. Simplement, certains naturalistes utilisent le terme de transformation sur un plan philosophique, sans pour autant, ce qui est difficile à comprendre pour nous aujourd'hui, sans pour autant que cette transformation concerne un processus historique. Pourtant, le terme de transformation, lié à un ouvrage qui situe l'origine des espèces aussi bien dans la dimension géologique que dans la succession des générations, le terme de transformation est forcément lié à une réalité historique. Évidemment, Goudry, lui, soutient les transformations au sens matériel du terme. Alors, page 196, celle que vous voyez là, Goudry écrit « Tout ce paragraphe est pure hypothèse ». Et dans plusieurs pages suivantes, il écrit « Hypothèse gratuite ».« Hypothèse gratuite ». Admet un curieux pour un exemple, mais pas plus. « Hypothèse, point d'exclamation un peu plus tard ». Toutes ces hypothèses qui ne sont vraiment pas quelque chose de très positif sous sa plume, il faut prendre l'hypothèse comme quelque chose de vraiment mal fondé. Tout cela est lié, il y a quoi ? Est lié à des commentaires de Darwin sur les effets de l'usage et du non-usage. C'est-à-dire cette part de Darwin qui admet quelques principes fondamentalement lamarckien, hein, puisque vous savez que l'hérédité des caractères acquis n'est pas absente, n'est pas récusée par Darwin, contrairement à ce que l'on lit encore aujourd'hui assez souvent. Hein. Darwin lui-même l'écrit, il n'a aucune idée concrète des critères d'héritage des caractères. Donc il est obligé d'imaginer, hypothèse de la pangénèse, etc., il est obligé d'imaginer quels seraient les facteurs d'héritage des caractères d'une génération à une autre, mais il ne la connaît pas. Et il admet l'effet de l'usage et du non-usage. Ce qui est intéressant, c'est que Albert Gaudry, lui, en tant qu'évolutionniste, mais non lamarckien du point de vue des mécanismes, trouve à chaque fois ces exemples d'usage et de non-usage purement hypothétiques. Hypothèse gratuite, hein, l'expression est quand même assez dure. Difficulté de la théorie. Alors, dans ce chapitre, il y a une phrase extraordinaire, c'est lorsque Darwin dit que la nature ne fait pas de sauts. Il reprend cette formule, et on le sait, ses amis lui ont reproché à Darwin d'utiliser cette phrase-là. Eh bien, aucun commentaire, aucune note de Gaudry sur la totalité de ce chapitre, y compris en regard de cette phrase. Même chose pour le chapitre sur l'instinct, même chose dans le chapitre sur l'hybridité. Le chapitre 9, évidemment, parle beaucoup plus à Albert Gaudry, insuffisance des documents géologiques. Pourtant, ce chapitre contient une phrase terrible de Darwin sur la pauvreté des collections paléontologiques dans les musées. On sait que Darwin est vraiment désolé que les fossiles ne puissent pas mieux illustrer sa théorie. Après, il explique très bien pourquoi. Et aucun commentaire d'Albert Gaudry, alors qu'Albert Gaudry n'a pas attendu 1898, date de l'inauguration de la galerie de paléontologie, pour rêver d'une mise en scène de la paléontologie, c'est-à-dire des fossiles, puisqu'en fait, Cuvier le premier avait conçu une galerie qui viserait à montrer la succession des faunes au cours du temps. Mais évidemment pas dans une perspective évolutionniste. Alors, dans deux pages de cette édition de l'Origine des espèces, Gaudry écrit « C'est vrai, à nouveau », à propos de ce que les recherches géologiques ne nous permettent pas d'identifier tous les stades de transition qui sont ceux que Darwin a conçus sur le plan théorique. Si sa théorie est vraie, voilà comment les choses peuvent se passer au niveau des caractères liés aux variétés, etc. Donc Gaudry reconnaît que les archives géologiques ne sont pas propres, en tout cas à son époque, à restituer tous ces intermédiaires. Et ce point est crucial puisque nombre d'auteurs ont utilisé ces imperfections pour en fait dire que la preuve directe de l'évolution, c'est ce qu'on va lire dans la géologie, puisque on a déjà un point important pour prouver que la Terre n'est pas aussi récente qu'on pourrait l'imaginer en lisant les textes sacrés. Sauf que la preuve directe, c'est vite dit, puisqu'il faut bien ajouter de l'hypothèse sur les taux de sédimentation pour mesurer le temps qu'il faut pour qu'une couche géologique de telle ampleur puisse déposer ce qu'avait fait Darwin. Page 427, Gaudry écrit « C'est juste à propos d'une objection de Pictet, un paléontologue, qui avait critiqué la conception des degrés de transformation » comme prouvant l'évolution, sous-entendu probablement également évolution dans le sens du progrès. Alors, il semble bien que Gaudry écrit ses justes vis-à-vis de l'objection et non pas de la réponse que fait Darwin à Pictet dans son livre. Alors, l'objection est assez classique, elle est fondamentale. C'est que finalement, quel serait l'intérêt du point de vue de l'organisme? N'oubliez pas le sous-titre de l'Origine des espèces, la survivance des plus aptes. Quel serait l'intérêt d'avoir des organes qui ne seraient pas complètement aboutis, donc un petit peu transformés, sans pouvoir avoir l'effet fonctionnel que l'organe possédera plus tard lorsque plusieurs transformations se seront produites sur le dit organe? Darwin répond en prenant un exemple que l'on connaît des différents stades d'atrophie des ailes chez les oiseaux, sans que cela ait une influence sur l'utilisation de ces ailes atrophiées jusqu'au cas des manchots qui utilisent ces ailes pour nager en réalité. Et à ce moment-là, on a l'explication pourquoi ces ailes ont cette forme. Et c'est parce que ça sert à l'oiseau lors des changements d'orientation pendant la nage. Darwin ne va pas très loin dans ce contre-exemple, sans doute parce que lui-même saisit que nous savons à quoi sert une aile de manchot. Malheureusement, il ne développe pas ce point sur l'interprétation du paléontologue vis-à-vis d'un organe tel qu'une aile atrophiée pour en tirer des conclusions sur le côté fonctionnel. Cela aurait, je pense, été très intéressant de voir Darwin raisonnant sur cet aspect-là. En attendant, l'une des objections majeures concernant l'évolutionnisme, enfin l'interprétation de différents stades de transition dans les transformations de caractère, évidemment, cela est épinglé par Gaudry, et on sait que dans son œuvre ultérieure, Gaudry va illustrer différents cas de transformation des caractères, ne serait-ce que la conformation des pattes des chevaux liées au galop. Alors, il semble que Gaudry ne soit pas convaincu par l'assertion selon laquelle Darwin dit que les espèces appartenant aux groupes les plus complexes changent beaucoup plus que les organismes inférieurs. Il se demande pourquoi, comment se peut-il ? Et en ce sens, Gaudry fait une remarque assez fondée. Dans cette page-là, Gaudry a écrit « Cela doit être vrai » sur un chapitre qui dit que toutes les espèces d'un même genre descendent d'une espèce unique. Bon, ça, c'est un point fondamental, puisque là, Gaudry relie dans son commentaire les constructions de son époque, qui sont la plupart du temps à prétention classificatoire et non pas évolutionniste, et en fait, l'explication qui sous-tend la légitimité de ces constructions, qui est la filiation. Et puis, deux pages plus loin, Gaudry coche entièrement les pages, et mais même deux traits verticaux lorsque Darwin répond à des objections qui touchent au fait que le monde a été différent dans le passé et qu'il faut partir de ce point de vue pour raisonner sur l'évolution et non pas constamment tirer des affirmations sur la stabilité du monde actuel. Donc il semble bien que Gaudry est assez enthousiaste avec ses doubles traits verticaux concernant ces parties, puisqu'en fait, on le sait, ultérieurement, Albert Gaudry va illustrer ce qu'il appelle les enchaînements du monde animal, c'est-à-dire ces transformations. Il va illustrer le fait qu'effectivement, le monde d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Un peu plus loin, il va noter un paragraphe où Darwin dit que quand un groupe disparaît, il ne reparaît plus, et deux petits traits pour la phrase « Le lien de ces générations a été rompu ». Donc, il semble bien que Gaudry adhère totalement à l'idée que ce qui est important pour expliquer les variations, c'est le lien de génération. Autrement dit, par définition, l'évolution. Le chapitre 11, c'est le chapitre qui s'appelle « Distribution géographique ». Alors là, il y a quelques petites pages amusantes. Clémence Royer, encore elle, a fait une erreur de traduction. En anglais, rongeur, ça s'écrit rodent. Et elle a traduit rodent par rôdeur. Gaudry corrige la coquille et met un point d'exclamation dans la marge. Moi, je me plais à imaginer Gaudry s'amusant volontiers de cette erreur, de cette coquille. Après, il corrige une autre erreur de traduction ou une maladresse de traduction. Il commente... À propos d'isolement géographique, toujours lié à l'idée selon laquelle le monde du passé n'a pas été identique au monde actuel, Darwin part de l'idée selon laquelle, puisque les glaciations ont été beaucoup plus importantes à la période quaternaire, eh bien, il devait y avoir des distributions de faune liées à ce milieu différentes et dont on a une petite idée que grâce à la persistance dans les îlots où les montagnes ont encore des glaciers, à la fois sur le plan végétal et animal. Donc ce point intéresse beaucoup Gaudry qui résume un peu le paragraphe de Darwin en disant « Ceci est vrai et les époques antérieures à la nôtre nous permettent de comprendre aussi les distributions actuelles ». Alors, j'en arrive à la page 520. Alors, Darwin explique à une échelle beaucoup plus importante des relations entre les continents. L'Amérique, l'Asie, voir l'Europe, et Darwin est amené à dire que, tertiaire récent, il y a dû y avoir des communications qui font que les faunes ont pu passer d'un continent à l'autre et connaître ensuite des évolutions différentes. Et effectivement, Gaudry écrit, il suppose des communications d'anciens animaux au Pliocène. Alors il manque des mots. Il est évident que Gaudry ici est intéressé par l'impact des connexions géographiques du passé et sur les échanges des faunes. Et lui-même, après son travail dans le Luberon, insistera sur les corrélations entre les faunes à longue distance et sur les différentes géographies qui permettent justement ces distributions passées dans les faunes. Le chapitre suivant est un chapitre qui contient le même titre, mais cette fois, la distribution géographique dans ce chapitre est plus utilisée comme un argument anticréationniste, c'est-à-dire Darwin, dans de nombreuses pages, partant de la constatation que tel et tel être vivant vit notamment dans les îles et pas d'autres, pourquoi ces groupes-là et pas d'autres si chaque groupe, chaque membre a été créé? Et évidemment, cette argumentation ne passe pas inaperçue aux yeux de Gaudry. Donc, il coche les paragraphes sur les facteurs de dispersion des oiseaux des rivages marécageux, qui permettent pour ces oiseaux d'avoir des graines collées à la boue de leurs pattes, et les oiseaux vont d'île en île et peuvent entraîner justement des plantes via les graines, ce qui explique à ce moment-là la présence de plantes dont les graines ne peuvent pas être forcément emportées par les vents. Gaudry coche les pages sur, avec des notes illisibles malheureusement, sur les habitants des îles. Darwin insiste énormément sur le fait que de nombreuses îles du Pacifique ne sont occupées que par des chauves-souris. Et pourquoi uniquement des chauves-souris si on accepte la force créatrice qui crée les espèces? Pourquoi pas d'autres animaux? Alors que dans mon explication, écrit Darwin, bien c'est parce que les chauves-souris peuvent voler sur de très longues distances au-dessus de la mer et conquérir telle île et faire souche. Donc ça, c'est coché par Gaudry et commenté. Il y a un able qu'on peut considérer comme remarquable. Il y a deux PANT pour frappant. Et je pense qu'effectivement, Gaudry est frappé par ces argumentations. Il faut quand même savoir que 1863, on en est à argumenter pour asseoir la réalité d'une vision matérielle de la vie et de l'histoire de la vie. Alors, Gaudry coche également une page où il est question des arbres flottants qui transportent des coquillages terrestres et non pas marins, et qui peuvent justement être à l'origine de dispersion de ces coquillages dans de nouvelles terres, une fois que ces arbres flottants échouent sur tel et tel rivage. Donc, on peut dire que Gaudry, là, utilise des outils pour ses travaux ultérieurs, car Gaudry essaiera toujours non seulement d'expliquer les transformations des caractères des êtres vivants dans le temps, mais aussi d'expliquer leur distribution dans l'espace. Alors, le chapitre 13, c'est un grand chapitre de biologie, avec plusieurs points qui sont associés, classification, morphologie, embryologie, organes rudimentaires. Et c'est probablement le chapitre qui a le plus impressionné Gaudry, en fonction du nombre de paragraphes cochés, et notamment la section sur l'embryologie. Il écrit chapitre très intéressant sur ce chapitre concernant l'embryologie. En plus, cela intéresse d'autant plus Gaudry que Gaudry est plutôt un paléontologue, plutôt géologue que biologiste, et il a tout à apprendre de l'embryologie, si je peux dire. Donc il est très intéressé par ce qu'il apprend de la lecture de ce chapitre de Darwin. Donc ce chapitre très intéressant, il va commenter cette page qui concerne les ressemblances des embryons. Darwin écrit que les embryons de groupes très différents se ressemblent au début, de très près, même à ne pas pouvoir être reconnu. Darwin écrit « J'ai des flacons d'alcool avec des embryons et je défie les systématiciens de reconnaître à quel grand groupe appartiennent ces embryons, tellement ils se ressemblent dans les premiers stades du développement. » Et il écrit très curieux dans ce chapitre, et il rajoute « Les jeunes ammonites se ressemblent presque toutes. Ça, c'est le paléontologue qui parle. Les ammonites, vous savez, ce sont des céphalopodes munis d'une coquille enroulée. Et les premiers tours correspondent à l'animal juvénile. Et on le voit effectivement dans un nombre de cas quasiment infini. On voit que les différentes ornementations de la coquille apparaissent à un moment donné lors de la croissance, mais pas au début, quelquefois au début, mais très souvent des groupes très différents pour ce qui est des derniers tours se ressemblent énormément au début. Et ça, Gaudry l'a rajouté comme pour mettre un exemple supplémentaire dans le sens de ce que Darwin avance dans son chapitre. Alors un peu plus loin, il écrit très curieux à propos des éleveurs de bœufs et de chevaux qui ne savent pas au début de la sélection quelle sera la forme définitive de l'animal et qui savent aussi qu'ils ne l'apprendront pas lorsque l'animal est très jeune. Il faudra attendre l'adulte pour voir si le caractère sélectionné effectivement est fixé ou pas. Donc ça, ça intéresse aussi fortement Gaudry. Dans ce chapitre, Gaudry s'intéresse aux dents des veaux et des oiseaux. Gaudry est manifestement frappé par le fait que des cas tératologiques permettent de constater que des dents poussent dans la mâchoire des oiseaux, alors qu'en principe ça ne pousse pas, qu'on a décrit des juvéniles d'oiseaux ayant ces dents. Il est intéressé par cet aspect-là, il le note, hein, comme s'il allait utiliser cet aspect pour un cours. En revanche, un peu plus loin, Gaudry écrit en marge « nier », qui est un adjectif assez péjoratif, sur une explication de type lamarckien, les organes rudimentaires servent à excréter la matière en excès, dit Darwin, selon un physiologiste éminent. Donc, évidemment, c'est le physiologiste éminent qui est qualifié de nier par Gaudry en marge. Le chapitre 14, c'est le dernier, comme son nom l'indique, récapitulation et conclusion. Et Gaudry a souligné, page 647, une phrase pleine de modestie de Darwin. Et de prudence, Darwin est un auteur extrêmement prudent, modeste, qui s'avance à pas compter. Il écrit, Darwin, et cette phrase, Gaudry aurait pu l'écrire quand on a lu l'œuvre de Gaudry. « J'ai trop lourdement senti ces difficultés pendant de longues années pour douter de leur poids, mais il faut expressément noter que les objections les plus importantes se rapportent à des questions sur lesquelles nous confessons notre ignorance. » Sans savoir même jusqu'à quel point nous sommes ignorants. Donc cette prudence manifestement plaît beaucoup à Gaudry. Alors un peu plus loin, Gaudry écrit « Ce n'est pas très facile » lorsque Darwin essaye d'utiliser l'interprétation qui se fait de l'évolution de l'instinct comme un argument important à sa théorie de l'évolution par la sélection naturelle. Il écrit « Darwin a parfaitement raison » à propos d'un paragraphe où Darwin à nouveau critique l'optique de création pour imaginer que des mammifères dont on a des caractères anciens à l'état juvénile seraient créés comme ça brutalement, jailliraient soudain. Cette page d'ailleurs commentée donc positivement, Darwin a parfaitement raison par Gaudry, inclut également une phrase où Darwin invoque la philosophie, l'épistémologie, d'une part, et puis quelques scientifiques comme Maupertuis, qui est cité nommément, comme principe de moindre action qui serait évoqué pour dire qu'une création est plus simple à imaginer que la création de toutes les espèces vivantes. Dans la page où Darwin pense que tout est descendu de type primitif en très peu de quantité, eh bien Gaudry écrit « Tout est descendu de trois types primitifs ». Dernière page. Alors, il y a de la grandeur dans une telle manière d'envisager la vie et ses diverses puissances animant à l'origine quelque forme ou une forme unique sous un souffle du Créateur. Gaudry écrit quelque chose du style, il admet après Dieu laisse le monde lui-même, on ne peut pas tout lire, mais il semble que Gaudry soit soulagé de voir qu'à la fin, Darwin évoque le Créateur comme si le Créateur crée la vie et puis laisse le monde évoluer comme bon lui semble. Sauf que dans la première édition anglaise de Darwin, Darwin a écrit insufflé, effectivement, mais n'a pas écrit par le Créateur. Darwin, à la troisième édition, a écrit le Créateur, probablement pour rassurer sa femme, sans doute, qui était fort gênée par le fait que le Créateur n'est pas souvent rappelé par Darwin, et également Je pense que Darwin lui-même ne devait pas avoir trop de mal avec la métaphore du créateur et bon, il mettait un peu d'eau dans son vin vis-à-vis de ses détracteurs. Donc à partir de la troisième édition, il est question de créateur. Mais je pense que là, Gaudry n'aurait pas écrit cette phrase s'il avait lu la version originale de 1859. D'ailleurs, si vous achetez la publicité gratuite, hein, l'origine des espèces du monde, là, publié par le Monde, c'est effectivement la traduction de 1859. Le créateur ne figure pas dans les dernières phrases du livre. Hein. Il y a cette la vie est insufflée. Point. Alors, publication phylogénétique de Gaudry, ben vous voyez les proboscidiens, les éléphants à droite. Cette image est le calque, si vous voulez, du modèle de Darwin, sauf qu'il l'applique, Gaudry, pour la première fois, le premier. Il l'applique à ses propres analyses, ici les éléphants, c'est-à-dire qu'il lie les espèces actuelles et fossiles. Il ne se contente pas de les suivre dans le temps, il y a des hiatus. Donc il hypothétise des lignées quand elles ne sont pas soutenues par les archives, car Gaudry est parfaitement conscient que les archives, dans l'état actuel des connaissances, ne peuvent pas livrer toutes les intermédiaires, mais ce n'est pas un handicap pour construire de tels arbres et asseoir la théorie de l'évolution. 1866, c'est une date, un tournant dans l'histoire de la pensée évolutionniste. Alors, dans l'ouvrage, dans cet ouvrage-là, dans ce chapitre-là, Gaudry écrit, fait référence à l'origine des espèces. Et donc là, on voit que dans ce texte, Gaudry prend du recul vis-à-vis de la sélection naturelle. Tout le monde n'a pas été convaincu par l'omnipotence, si j'ose dire, de la sélection naturelle, et il semble bien que Gaudry non plus. Gaudry pensait que la sélection naturelle, c'est l'explication à tout, c'est quelque chose qui reste à démontrer, et en tout cas, Gaudry ajoute, tout ça ce n'est pas dû au hasard, puisqu'il pense que tout ça est dû à la volonté de Dieu, et Dieu ne peut faire les choses que dans une perspective de progrès, d'harmonie et de progrès. Avant d'aborder d'autres citations, il faut savoir que Gaudry et Darwin entretiennent une correspondance. Gaudry encourage Darwin en 1868 à poursuivre dans son œuvre de filiation entre les espèces fossiles et actuelles. Et plus tard, dans une autre correspondance avec un anthropologue, Quatrefages, Darwin écrira qu'en France, la différence des autres pays, il ne connaît qu'un seul zoologiste qui défende ses idées, M. Gaudry. Et il ajoute, et encore ne le fait-il qu'imparfaitement. Gaudry est toujours réticent pour la sélection naturelle, à propos des mécanismes. Alors, dans son ouvrage de 1896, on voit que finalement Gaudry est plus nuancé. Il évoque plusieurs hypothèses sur les mécanismes de l'évolution, notamment la sélection naturelle, et il dit que, bon, finalement, ce n'est pas aux paléontologues, ce sont aux physiologistes. Plus loin, il citera Claude Bernard. À trancher. Lui, paléontologue, il déchiffre les archives, il met en regard les espèces fossiles les unes avec les autres, vis-à-vis des actuelles, et il écrit, vous voyez, pour ce qui est des mécanismes, je ne saurais m'en occuper, la tâche que j'ai entreprise me paraît déjà assez difficile. On sent comme un soulagement, je pense, pour Gaudry, là, de ne pas avoir, finalement, en tant que paléontologue, à trancher sur quel est le mécanisme de l'évolution. Car rien n'est plus matérialiste que le mécanisme de la sélection naturelle, bien entendu. Surtout que Gaudry est convaincu du progrès de la progression. Alors, maintenant, Gaudry a écrit sur le rôle de l'impact que Darwin a eu sur les paléontologues. Le livre de Darwin n'est pas un livre écrit pour les paléontologues. La paléontologie n'est pas omniprésente dans cet ouvrage, mais Gaudry a dit « les paléontologues ont bénéficié de la lecture de cet ouvrage, et la paléontologie en a bénéficié. » Donc, il écrit, après la mort de Darwin, Gaudry écrit sur Darwin, il reprend ce texte dans son livre de 1888, « Les ancêtres de nos animaux dans les temps géologiques », et il confesse avoir lu, alors je cite, « Darwin, avec une admiration passionnée, je le dégustais lentement, comme on boit à petits traits une délicieuse liqueur. J'y trouvais une multitude d'observations et de pensées qui s'accordaient avec ce que j'avais pu entrevoir des enchaînements dans les âges passés. » Et il dit auparavant, « Les ouvrages de Darwin ont eu une importance toute particulière pour la paléontologie. » Alors, pourquoi insister sur l'influence de Darwin sur les paléontologues ? C'est parce que Gaudry est le seul en France à défendre la paléontologie évolutive. Un point d'histoire. Avant d'avoir été nommé professeur au muséum en 1872, Gaudry enseignait la paléontologie à la Sorbonne. 3 années, durant jusqu'en 1871. En 1871, il apprend par voie d'affichage que Henry Milne Edwards, qui faisait office de doyen à l'époque, a supprimé son cours de paléontologie, qui était en fait un cours de paléontologie évolutive, car Henry Milne Edwards considérait les idées évolutionnistes comme pernicieuses. L'esplanade Milne Edwards, qui est devant la Grande Galerie de l'Évolution, c'est l'esplanade du fils, Alphonse, heureusement pour nous, qui a été directeur du muséum 2 fois consécutives. Ce qui montre bien que les idées évolutionnistes et darwiniennes étaient quelque chose d'assez singulier à cette époque-là. Alors cette phrase est tout de même révélatrice de ce que finalement Gaudry a pensé de l'œuvre de Darwin. Il n'a pas tout expliqué, hein, souvenez-vous de son commentaire sur la prudence de la phrase de Darwin, « Notre ignorance est très grande ». Il n'a pas tout expliqué, mais il a ouvert la voie et donc il a fait preuve de génie. Vu le style de Gaudry, Gaudry n'a pas utilisé génie par inadvertance. C'est donc très intéressant de voir comment ce paléontologue spiritualiste finalement s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de contradiction dans ses convictions et dans la pratique de son métier, ce qu'il rencontrait à l'état fossile, tous ces fragments des êtres du passé qui racontaient une histoire, si tant est qu'on est capable de la restituer, cette histoire. Donc, au fond, ce dialogue par marge découpée, interposée entre Gaudry et Darwin nous permet de voir que les débats actuels étaient pratiquement résolus dans les années 1860. Bah, je pense qu'on pourrait tirer des conclusions positives de cette façon que Gaudry a de lire Darwin et de pratiquer sa science. En conclusion, je cite Edgar Poe. Je vous conseille de lire Darwin et Gaudry. Lire Darwin, c'est très facile. Lire Gaudry, là, il faut être un rat de bibliothèque. Évidemment, Gaudry n'est absolument pas réédité, et c'est bien dommage. Le premier paléontologue évolutionniste. Pour ma part, je le qualifie de premier paléontologue darwinien, même s'il est réticent vis-à-vis de l'omnipotence de la sélection, je le répète. On peut trouver les enchaînements parfois, mais plus rarement, on peut trouver surtout les ancêtres de nos animaux dans les temps géologiques, chez les bouquinistes. On peut dire du mal de Google Books, on en dit du mal, souvent à juste titre, et pourtant, vous pouvez télécharger gratuitement le fameux chapitre publié en 1866, les considérations sur les fossiles de Picardie, où sont publiés les premiers arbres évolutifs de l'histoire de l'évolutionnisme. C'est le moyen le plus simple pour lire Gaudry. Enfin, le plus simple, c'est d'aller dans les bibliothèques, bien entendu. Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'écouter Pascal Tassy, paléontologiste et professeur au muséum. En possession de l'exemplaire de l'origine des espèces, annoté par Albert Gaudry, célèbre paléontologue et membre de l'Académie des sciences, il proposait une relecture de l'œuvre fondatrice de la théorie de l'évolution, publiée en 1859. Canal Academy vous invite à poursuivre ce voyage scientifique et biologique en écoutant sur notre site les 2 autres conférences consacrées à Charles Darwin. La première vous initiera à la géographie des plantes et la deuxième vous plongera dans l'histoire de l'anatomie comparée. N'hésitez pas également à consulter le programme des futures conférences du Muséum national d'histoire naturelle sur le site www.mnhn.fr.